Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres, la page de l'émission. Mais c'est sur quel site? Ah bah oui, la question est posée. RadioAlpa.com, bien sûr. On aurait pu vous parler de l'autoroute Pierre Fabre, du nom de l'industriel de Castres qui a tout intérêt à ce que l'autoroute A69 se fasse. Le tribunal administratif de Toulouse a rendu son verdict en annulant l'autorisation environnementale qui permet de tout bousiller, hein, flore, faune, habitat des animaux et bien sûr habitat des humains qui étaient sur le tracé, au nom de l'intérêt général. Seulement l'intérêt général n'est pas au rendez-vous et c'est ce qu'a sanctionné la justice administrative. Aussi, les adorateurs de la croissance du PIB montent au créneau. Un certain Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui tweete que la situation est, je cite, « ubuesque ». C'est un chantier avancé aux deux tiers qui est arrêté du jour au lendemain. Eh ben donc, ça voudrait dire que c'est la prime au fait accompli. Tant pis pour les règles de protection du vivant. Il suffirait donc de commencer les travaux, de les faire le plus vite possible et ensuite d'affirmer que bon, bah, puisque c'est commencé et qu'on a mis du pognon dedans, autant aller jusqu'au bout. Alors, il dit également dans son tweet, c'est une liaison autoroutière portée par les élus locaux et soutenue par une très grande majorité des habitants de la région qui ne peut pas voir le jour. Alors là non plus, c'est pas très très clair, hein, mais il faut dire qu'il est ministre d'un gouvernement assez illégitime puisqu'il a été, je vous le rappelle quand même, nommé le monsieur Tabarot en question, alors que le parti auquel il appartient, les Républicains, ne représente presque rien au niveau de la représentation nationale. Avec en plus au poste de Premier ministre, un Premier ministre qui lui fait partie d'un parti qui s'appelle le Modem, qui ne représente pas grand-chose au niveau national non plus. Et donc bah là, c'est pas très clair, hein, pour les élus, d'accord, bah, ils sont pour, bah, faut dire que certains travaillent directement pour Pierre Fabre. On voit bien que l'assentiment des élus n'est pas toujours un vrai choix pour les populations. Alors au début des travaux, un sondage Odoxa de mars 2023 donnait 75% des sondés pour l'autoroute. Mais en mai 2024, 61% contre, d'après un sondage IFOP. Entre-temps, il faut dire que les connivences entre les milieux industriels et les milieux politiques ont été dévoilées. Les conséquences sur le vivant ont été ressenties avec l'abattage des arbres, de forêts entières, la destruction, bien sûr, d'un environnement qui est tout autour du tracé de l'autoroute. Ah, et dommage que Philippe Tabarot reste bloqué sur les chiffres qui l'arrangent. C'est un véritable projet d'aménagement du territoire, on continue avec son tweet, qui permet de désenclaver le sud du Tarn et qui offre une vraie réponse aux besoins économiques et aux attentes de la population qui est stoppée net. Encore une fausse information, mais bon, je vous rappelle quand même que Monsieur Tabarot, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Eh ben oui, c'est ça, c'est le genre de ministre auquel on a affaire actuellement. Donc bah il est pas un tweet faux près. Encore une fausse information puisque le sud Tarnais n'est pas du tout enclavé. Non, il est relié à Toulouse par la nationale 126. Donc plusieurs tronçons ont déjà été aménagés en 2x2 voies, ce qui permet de contourner 2 villages. La réponse aux besoins économiques, on veut bien la comprendre hein, puisque l'autoroute permet à un industriel local, est-ce qu'on l'a cité, Pierre Fabre, d'accéder plus vite au réseau autoroutier et donc de gagner du temps dans le transfert de ses marchandises vers les lieux de vente. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'ensemble des populations, qu'elles soient humaines, animales et végétales d'ailleurs. La 69, c'est l'artificialisation de plus de 360 hectares. Avec, donc, dans ces 360 hectares, je vous mets la destruction de 13 hectares de forêt, ça y est, c'est fait. 22 hectares de zones humides, c'est quasiment terminé. À l'heure de l'augmentation des périodes de sécheresse et de canicule, c'est pas le truc à faire. La perte également de 250 hectares de terres agricoles, l'augmentation des nuisances sonores. Difficile à comprendre pour un libéral en économie dont le but est l'accumulation de profits. Comment ça, on détruit votre qualité de vie et alors, ça va vous rapporter de l'argent? Eh oui, qualité de vie, niveau de vie, ah, pour un libéral, le niveau de vie, il n'y a que ça de vrai. Sauf pour sa qualité de vie personnelle, bien sûr, où il s'arrange pour ne pas être trop bruyamment ennuyé Il n'y aura pas d'autoroute dans le jardin de Monsieur Pierre Fabre, non, aucune. Difficile à comprendre aussi pour un ministre de la transition écologique et de la diversité, de la forêt, de la mer, de la pêche, n'en jetez plus, c'est-à-dire Agnès Pannier-Runacher, qui aime tellement l'industrie, vous vous souvenez, hein, l'industrie elle en raffole, puisque l'industrie c'est magique, ah, faudra qu'on se le repasse un jour ce son. Elle aime tellement l'industrie que bon bah, pour la transition écologique, c'est tout à fait compatible. Eh ben, Agnès Pannier-Runacher, rappelons quand même que toute sa famille ou presque est actionnaire dans les énergies fossiles, y compris ses enfants qui ne sont pas encore majeurs. Elle était sur France Info vendredi 28 février pour le 8h30. Éloignez les enfants, attention, Agnès Pannier-Runacher va parler.
Comme tout projet humain, lorsque vous construisez votre maison, vous portez atteinte, vous avez un impact sur l'environnement. Et cet impact, nous sommes dans un pays où les lois environnementales sont parmi les plus exigeantes au monde, et vous savez que on réduit, enfin il y a une séquence, éviter l'impact, le réduire et le compenser. Et ce projet le fait avec beaucoup de rigueur, donc effectivement l'État fera appel. C'est un projet de désenclavement, et moi je veux dire ici une chose.
L'écologie,
ce n'est pas des interdictions tout azimut. C'est précisément ça qui fait qu'aujourd'hui les Français se détournent de l'écologie.
Bon, sur le désenclavement, elle n'a pas répondu, hein, puisque forcément le but c'est de balancer son discours et d'éviter de parler de la réalité, sinon bah, le discours ne tient plus. Toujours dans l'à peu près bon sens, ah le bon sens, ah bah là l'analogie avec la maison que vous construisez, à moins d'être un riche qui ravage la planète, tiens ça me rappelle une bande dessinée, eh bien quand vous construisez votre maison, quand vous construisez votre habitat, ça n'implique pas de bousiller des hectares de zones humides, de terres agricoles, etc. Quant aux mesures de compensation, on sait qu'elles permettent de faire n'importe quoi en faisant croire que les aménagements consentis auront les mêmes vertus que les lieux bousillés. Seulement 10 arbres de 10 ans ne font pas un arbre centenaire, non, jamais, ça sera jamais le cas, par exemple. La fin de son intervention est une menace claire et un aveu idéologique. La préservation des milieux de vie des êtres vivants sur cette planète passe largement après l'activité économique à la sauce capitaliste. L'écologie est à 100 lieues de ce que défend Agnès Pannier-Runacher. Ses actions au quotidien nous le confirment. Mais bon, le banc et l'arrière-banc des destructeurs de masse que sont les libéraux en économie donnent de la voix pour faire passer leurs idées d'accumulation de profit pour quelques-uns aux dépens du reste du vivant. Mais pour l'instant, c'est le vivant qui gagne, en tout cas à travers cette décision du tribunal administratif. Et pourquoi c'est le vivant qui gagne ? Ben, je rappelle que c'est lui qui est d'intérêt général. On aurait pu vous parler d'un truc de curé, en l'occurrence d'un conclave. C'est le nom qu'a donné l'actuel Premier ministre, chrétien convaincu. Il nous pardonnera tous. Il se pardonne tellement de choses d'ailleurs. Tiens, les gamins de Bétaram s'en souviennent. Ah, ceux de Bergerac aussi se souviennent qu'il se pardonne beaucoup de choses. Monsieur François Bayrou. Eh bien, c'est le nom donc conclave qu'a donné l'actuel Premier ministre à une réunion entre les organisations syndicales de salariés, que les médias appellent syndicats, et les organisations syndicales d'employeurs que les médias appellent le patronat. Rappelons qu'une organisation syndicale a pour but de défendre les intérêts de ses membres. Et ben c'est pour ça que les organisations syndicales d'employeurs défendent l'intérêt des employeurs qui, pour une grande partie, sont des capitalistes convaincus et qui ont pour but l'accumulation de profits à leur profit. Les différentes organisations syndicales défendent des visions opposées sur les retraites, puisque c'est l'objet du conclave, les retraites. Les employeurs ne veulent pas toucher à l'âge de départ à la retraite, soit 64 ans depuis que les libéraux au pouvoir ont fait voter une loi en 2024. Les salariés aimeraient bien ne pas mourir au travail ou juste après leur départ à la retraite. Aussi, ils voudraient au moins revenir à 62 ans. La suite le 6 mars pour ceux qui espèrent que des négociations dans les palais de la République servent l'intérêt général. Mais pour les autres, ne pas oublier.
C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté. C'est dans la rue que ça se passe, comme dans tous les quartiers.
Ouais, pour tous ceux qui espèrent que dans les jolis salons, on obtiendra satisfaction, c'est pas gagné. On aurait pu vous parler de résistance, justement, en Grèce. Vendredi 28 février fut un moment d'une grève générale importante à l'appel des syndicats de salariés pour commémorer la catastrophe ferroviaire de 2023, une catastrophe symbolique de la destruction des services publics et la privatisation des biens communs par ceux qui nous gouvernent pour le profit de leurs copains libéraux au détriment du reste de la population. avec de la corruption, en veux-tu, en voilà. Tiens, si vous voulez en savoir plus sur la Grèce, eh bien, allez voir sur le blog de Yanis Youlountas. Le blog en question, c'est blogyy.net, blogyy.net, blogyy.net. Et on a un peu la même chose à propos de la corruption et de la... La destruction des services publics en Serbie. Oui, en Serbie, la population manifeste régulièrement depuis le début février à la suite d'une catastrophe qui a fait une quinzaine de morts, en l'occurrence un toit sur un aérodrome qui s'est écroulé. Pourquoi ? Bah parce qu'il était fait avec beaucoup de sable et très très peu de ciment. Il faut dire que la corruption est endémique également en Serbie. Alors, bah, les populations se révoltent contre la destruction de ces services rendus au public, que ça soit en Grèce, que ça soit en Serbie. On a eu des choses aussi contre la corruption encore dans l'Est de l'Europe. La Belgique se met un petit peu sur les rangs contre la mainmise des libéraux sur le pouvoir. Et il s'agirait qu'en France on résiste un petit peu plus aussi, ce serait pas mal. Et je rappelle à tous ceux qui espèrent que tout ça, ça va se passer, que les grands de ce monde, nos soi-disant représentants, vont nous aider à un moment ou à un autre parce qu'ils vont avoir un petit peu d'empathie.
C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent.
Ouais, clairement, c'est dans la rue que ça se passe. On aurait pu vous parler de la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à propos du meurtre de Rémi Fraisse. C'était en octobre 2014. Alors qu'il manifeste contre un projet de barrage à Sivens dans le Tarn, Rémi Fraisse est touché par une grenade offensive lancée par un gendarme qui ne fait qu'obéir aux ordres. Et il a quoi comme ordre ? Eh ben, il a ordre de balancer des grenades offensives sur des civils. Oui, parce qu'il faut pas passer. Bon, bah, d'accord. Alors, bah, en tant que bon petit soldat, il s'exécute. Et s'il exécute quelqu'un, bah, mais c'est pas de ma faute, j'ai eu des ordres. Ah, gendarme, ça a l'air sympa quand même, hein ? Totalement déresponsabilisant. Une grenade reste coincée entre le sac et la capuche de Rémi Fraisse et explose. Et le tuant. Souvenons-nous que les grenades offensives seront interdites mais vite remplacées par d'autres qui continuent à défigurer, mutiler, voire tuer, comme durant les manifestations contre la loi travail, les manifestations des gilets jaunes, les manifestations des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, etc. Souvenons-nous aussi qu'une enquête a permis de comprendre les collusions des élus du département du Tarn et de la région Occitanie et les agriculteurs qui devaient profiter du barrage. Et de fait, le barrage ne verra jamais le jour puisqu'il était le résultat de pas mal de corruption. 10 ans après les faits et après l'épuisement de tous les recours nationaux, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la France avait commis des lacunes administratives, des défaillances opérationnelles en Syrie et l'utilisation d'armes, je cite, d'une dangerosité exceptionnelle, pour une mission de maintien de l'ordre. Pendant ce temps, la production d'armes de guerre pour lutter contre les populations continue. En Sarthe, on a la chance à Précigné d'avoir une entreprise qui s'appelle Alcetex et qui a obtenu un marché de 21 millions fin 2023 pour des lacrymos, des grenades. À effet sonore notamment. Eh ouais, la répression, ça rapporte. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais on a préféré continuer à vous parler de la place de la bagnole dans nos vies. En octobre dernier, la MJC du Ronceret organisait un remue-ménage. Bon, c'est une discussion débat sur un sujet particulier. Ce coup-ci, c'était la bagnole. L'intervenant, c'était Ludovic Bu. Mais qui est Ludovic Bu ?
Je suis Ludovic Bu, j'ai 52 ans et je travaille sur les questions de mobilité durable, de transport, d'urbanisme depuis maintenant 27 ou 28 ans.
Ah ben d'accord. Le support, c'était un livre, le livre de Ludovic Bu qui s'intitule « Tout voiture » aux éditions de l'Échiquier dans la collection « On arrête tout et on réfléchit ». Alors ben, à l'occasion de sa venue, nous avons interviewé Ludovic Bu et souvenez-vous que la dernière fois, nous l'avions quitté. Ludovic Bu, qui fut conseiller municipal au Mans entre 2020 et 2024 chez Les Verts, qui travaille dans le secteur de la mobilité depuis plus de 25 ans, nous l'avions laissé, disais-je, après avoir constaté l'autobésité et le coût des bagnoles pour les particuliers comme pour la société. Des rapports d'organismes officiels allaient jusqu'à affirmer que les seuls moyens de locomotion bons pour les particuliers et la société sont la marche à pied et le vélo. Aussi, Je ne résiste définitivement pas à l'envie de vous lire un extrait de « Énergie et équité » d'un certain Ivan Illich, prêtre défroqué. J'aime bien. Paru en 1973, l'inventeur du concept de contre-productivité, Ivan Illich, y explique par le menu avec des chiffres, ce qui rassurera l'économiste de base, comment l'utilisation de la voiture est une hérésie alors que le vélo, c'est parti. Un vélo n'est pas seulement un outil thermodynamique efficace, il ne coûte pas cher. Malgré son très bas salaire, un Chinois consacre moins d'heures de travail à l'achat d'une bicyclette qui durera longtemps qu'un Américain à l'achat d'une voiture bientôt hors d'usage. Les aménagements publics nécessaires pour les bicyclettes sont comparativement moins chers que la réalisation d'une infrastructure adaptée à des véhicules rapides. Pour les vélos, il ne faut pas de route goudronnée que dans les zones de circulation dense. Et les gens qui vivent loin d'une telle route ne sont pas isolés. Comme il le serait s'il dépendait de train ou de voiture. La bicyclette élargit le rayon d'action personnel sans interdire de passer où on ne peut pas rouler. Il suffit alors de pousser son vélo. Le vélo nécessite une moindre place. Là où se gare une seule voiture, on peut ranger 18 vélos. Et l'espace qu'il faut pour faire passer une voiture livre passage à 30 vélos. Pour faire franchir un pont à 40 000 personnes en une heure, il faut deux voies d'une certaine largeur si on utilise des trains, 4 si l'on utilise des autobus, 12 pour des voitures et une seule si tous traversent à bicyclette. Le vélo est le seul véhicule qui conduise l'homme de porte à porte à n'importe quelle heure et par l'itinéraire de son choix. Le cycliste peut atteindre de nouveaux endroits sans que son vélo désorganise un espace qui pourrait mieux servir à la vie. La bicyclette permet de se déplacer plus vite, sans pour autant consommer des quantités élevées d'un espace, d'un temps ou d'une énergie devenue également rare. Chaque kilomètre de trajet est parcouru plus rapidement et la distance totale franchie annuellement est aussi plus élevée. Avec un vélo, l'homme, on va dire l'humain, peut partager les bienfaits d'une conquête technique sans prétendre régenter les horaires, l'espace ou l'énergie d'autrui. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur celle des autres. Ce nouvel outil ne crée que des besoins qu'il peut satisfaire, au lieu que chaque accroissement de l'accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences de temps et d'espace. Ivan Illich, Énergie et équité, 1973, chapitre 8, les degrés de la mobilité. Oui, qu'on se le dise, circuler à bicyclette ou à pied n'empêche pas les autres de circuler, alors que comme le dit Ludovic Bu, actuellement les aménagements sont faits pour la bagnole. Notre ville est organisée autour de la bagnole. La circulation dans le milieu rural est organisée autour de la bagnole. On le voit avec la 69 par exemple. Eh bien qu'on se le dise, à vélo, à pied, on ne détruit pas la mobilité des autres, on ne l'empêche pas. On est tout simplement avec. À propos des dirigeants du moment, il est vrai que Emmanuel Macron, dans un accès de populisme, avait assuré adorer la bagnole. Mais on peut voir son appétence pour les moteurs quand il joue avec son scooter des mers.
Non, parce que le président adore la bagnole, il l'avait dit d'ailleurs. Et puis, en effet, la voiture, c'est aussi un symbole. A priori, c'est un symbole de puissance. On parle même d'un certain virilisme automobile.
Oui, alors il y a une partie des utilisateurs, généralement plutôt masculins, très largement masculins, généralement plutôt au-delà de 35 ans, mais il y a aussi des catégories chez les jeunes qui continuent à faire vroom en se pensant viril parce qu'ils ont fait vroom avec un moteur. Mais c'est une frange, c'est-à-dire c'est peut-être 10-15% des utilisateurs. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le marketing automobile, puisque vous avez des catégorisations de véhicules qui correspondent à ces différents ciblages. Et dans les ciblages, vous avez, on est au Mans où il y a un des très bons labos et des très bons chercheurs et des très bons praticiens sur les questions de son, qui travaillent, donc il y a quelques entreprises ici qui travaillent sur le son des véhicules. Et qui m'ont expliqué qu'on fait rugir un moteur pour qu'il ait l'air puissant, alors qu'en réalité, on artificialise le son pour qu'il ait l'air plus viril, justement, plus rugissant, pour certains modèles, en fonction de la cible, et qui est effectivement celle que je décrivais, c'est-à-dire plutôt masculine, plutôt plus âgée, enfin, au-delà de la trentaine, et qui a besoin de se sentir exister grâce à son moteur.
On attache en effet beaucoup d'autres choses que la mobilité à la voiture, donc notamment cette idée de puissance ou cette idée de sécurité, d'où les 4x4 un peu haut, un peu rembourrés, rembarrés, qui permettent de se sentir plus en sécurité également.
Oui, dans les enquêtes qui sont sorties sur les utilisateurs de 4x4 et de SUV, donc les véhicules qui sont boursouflés pour le coup, dont les usages peuvent être tout à fait légitimes à la campagne sur des routes non goudronnées, mais dont on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils font dans les villes. Une part des utilisateurs sont des utilisatrices, et celles-ci décrivent effectivement qu'elles se sentent plus en sécurité à l'intérieur du véhicule. Le problème, c'est que moi, je suis intervenu dans une école où un parent avait tué un enfant, pas le sien, mais ça change quand même pas grand-chose, en reculant avec un SUV. Il a pas vu, à la sortie de l'école, il n'a pas vu qu'il y avait un enfant derrière et il l'a tué. On voit assez régulièrement des anecdotes tristes de parents qui tuent leurs enfants avec leur véhicule trop haut, ils ne les voient pas, ils reculent, ils font une manœuvre dans leur jardin et bam. Et donc la sécurité, elle est toute relative, c'est-à-dire que avoir tué quelqu'un, c'est une sécurité très relative, parce que tous les livres de témoignages sur ce sujet-là montrent que les gens font des très mauvaises nuits jusqu'à la fin de leur jour, avec un poids sur la conscience, etc. Donc sur le moment, on est plus en sécurité parce qu'on est plus gros, plus haut, plus fort, ou en tout cas dans une coquille qui donne cette impression-là. En réalité, il faudrait mieux apaiser tout l'espace public pour que les gens s'y sentent bien, qu'ils soient à pied ou dans un autre mode de déplacement.
Eh ben, si vous voulez apaiser l'espace public, vélo. Ah oui, ça fait un petit peu de bruit, ça couine un peu des fois quand ça manque de gras. Mais sinon, la marche à pied, il peut y avoir un petit peu de bruit de talons. Mais c'est tout, vous imaginez ? Par cela, on a quand même affaire à des faux rugissements de moteurs qui sont installés sur les voitures depuis les années 90 pour reproduire l'expérience conducteur. Ah ouais, important, l'expérience du conducteur. Tandis que les motorisations devenaient plus petites, l'isolation acoustique meilleure, alors pour que les vroom vroomers se sentent toujours une âme de pilote, les constructeurs ont développé des systèmes comme Soundactor, Engine Sound System, Air Sound, etc. suivant les marques. Avec les véhicules électriques, l'artificialisation est encore plus flagrante puisque le moteur électrique ne fait pas de bruit ou presque. Tout ça est totalement réel, hein, puisque sinon ça ne vaudrait pas le coup d'en parler. Cette attirance pour les rugissements de moteurs participe au concept de pétromasculinité, un concept développé par Kara Daggett en 2018 dans son petit livre, presque 200 pages, traduit en 2023 aux éditions Wild Project, qui s'intitule Pétromasculinité. Les mâles, toujours motivés par leur signe extérieur de mobilité, dont l'automobile, nous éloignent du projet défendu par Ludovic Bue, en l'occurrence d'un espace public apaisé où chacun peut prendre une place et non pas s'adapter à la bagnole. Mais il existe dans nos sociétés une petite musique qui privilégie un darwinisme social.
Mais alors là, on irait peut-être à l'encontre de la philosophie actuelle qui a une certaine agressivité. Il y en a même qui vont jusqu'à parler de la guerre de tous contre tous, l'espèce de darwinisme social qui est toujours appliqué actuellement, à l'air de rien, par les idées libérales. Ça va à l'encontre de ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce d'apaisement.
Moi, j'appelle de mes voeux depuis un paquet d'années. J'ai même monté une association qui s'appelle Moins Vite, dans l'objectif de faire la promotion de la lenteur, du ralentissement, de l'apaisement, parce que ça a mille vertus. La première étant que nous sommes des mammifères terrestres, les humains, on a du mal à le reconnaître, mais nous sommes des mammifères terrestres, et les mammifères terrestres aspirent, pour l'immense majorité d'entre eux, à avoir la paix et la tranquillité. Et donc on est dans une sorte de schizophrénie, de vouloir à la fois aller vite, être puissant, aller loin, et avoir du moteur qui rugit, alors que notre nature profonde n'est pas celle-là. Donc il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, comme on vit effectivement dans un monde dans lequel la croissance, le PIB et le chiffre d'affaires des entreprises est l'alpha et l'oméga, comme en France, l'industrie automobile, c'est toujours entre 8 et 12% des emplois selon la manière dont on calcule, on va y porter une grande attention à combien on vend de véhicules et à toujours trouver des moyens d'en vendre plus. Ce qui est absurde du point de vue, encore une fois, de ce que nous sommes profondément, des mammifères terrestres, pédestres.
Ben ouais, vous imaginez, normalement, on devrait glander dans notre coin. Et maintenant, Moins Vite, une association créée en 2006 qui a pour but de, je cite, « promouvoir les idées d'une société qui sortirait du burn-out permanent par une prise de recul et un ralentissement de ses activités ». Vous trouverez des contacts sur le réseau social Facebook où l'association a une page. Donc elle s'appelle, l'association s'appelle Moins Vite. Quant à la nature profonde partagée par les mammifères terrestres, on la retrouve dans la vie quotidienne de nos animaux de compagnie, mais aussi chez les animaux sauvages dont les éthologues ont défini qu'ils avaient en effet besoin besoin de calme et de tranquillité, puisqu'ils aspirent à du calme et à de la tranquillité, loin du bruit que nous faisons en permanence, à tel point que des zones entières de parcs naturels sont classées comme des zones de tranquillité, c'est le nom officiel. Un espace défini légalement où les humains n'ont rien à faire, ou presque. Ces espaces s'appellent parfois zones de quiétude ou havres de paix, notamment pour les loutres d'Europe, pour lesquels des réseaux d'associations, de collectivités territoriales et de particuliers se sont associés pour donner un peu de paix à ces animaux farouches. Mais nous voilà, à la différence de nos collègues mammifères, oui, nous sommes des animaux. Nous voilà à courir partout en cherchant l'accumulation de profits au lieu de glander une fois le nécessaire obtenu. Et la bagnole nous permet d'aller plus vite encore à la conquête du monde. Et la bagnole est une activité industrielle importante dans cette course au burn-out. C'est même notre référence.
Dans votre livre « Tout voiture » dans la collection « On arrête tout et on réfléchit » aux éditions Rue de l'Échiquier, vous parlez d'une colonisation de notre imaginaire par l'automobile. Ça se voit comment ?
Il y a une manière très simple de remarquer ça, c'est que lorsqu'on a un déplacement à faire, on va toujours comparer le mode de déplacement qui nous est offert à la voiture. C'est-à-dire que le référentiel en temps, en vitesse, etc., c'est la voiture. Je prends un exemple, lorsque vous regardez la signalisation routière, elle n'est destinée qu'aux voitures. Elle dit c'est à telle distance, donc 5 km, mais 5 km pour un piéton, c'est pas du tout la même chose que 5 km en voiture. Ou alors elle est dit en temps, telle enseigne est à 5 minutes. Mais si on le fait à pied, en fait, c'est 3/4 d'heure, c'est pas du tout 5 minutes. Et c'est jamais précisé, en fait, que c'est en voiture. C'était une évidence. Et cette colonisation de nos esprits, elle est très largement liée à la publicité, qui dépense plusieurs milliards par an, juste pour la France, hein, mais c'est pareil dans les autres pays occidentaux. C'est les principaux budgets publicitaires. Et donc on voit tout le temps de la publicité pour la voiture. Donc, de fait, nos imaginaires sont encombrés de ces voitures.
Encombré, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, nous avons tous fait le constat de la présence d'un supermarché à quelques minutes du panneau qui en fait la publicité. Alors quelques minutes si on dépasse les vitesses autorisées, hein. Bah ouais, en plus. En bagnole, bien sûr. La bagnole, comme référence de nos déplacements, c'est le cas très tôt, du fait de la propagande automobile. François Jarige, historien des sociétés industrielles, auteur de nombreux ouvrages sur les résistances à l'imposition des nouvelles techniques dans le travail, dans le transport, etc., commet régulièrement une chronique dans le mensuel devenu bimestriel en ce début 2025, intitulé « La décroissance ». En 2023, un recueil de ses chroniques dans la décroissance, fut édité par les éditions de L'Échappée. En septembre 2012, François Jarige écrivait ceci. On a longtemps considéré que la diffusion de l'automobile avant 1914 s'était opérée avec facilité parmi les classes moyennes et supérieures avides de nouveautés et de modernité. Il serait sans doute plus juste de dire que l'adoption de la voiture fut le résultat d'un intense travail de propagande. La publicité et le marketing naissant, automobile et publicité prennent leurs essors en même temps, surent associer l'utilisation du produit à la promotion d'un genre de vie sportif et aventureux. L'Automobile Club de France, fondé en 1880, et les constructeurs développèrent très rapidement une propagande efficace avec publication de catalogues et d'affiches en quantité considérable. La promotion de l'automobile a reposé sur une mobilisation totale de la presse populaire qui atteint alors ses tirages les plus importants. La presse automobile, quand elle naît en France dès 1900, elle comptait 25 publications. L'Auto, journal quotidien créé en 1900, tiré à 125 000 exemplaires dès 1913. La voiture s'est imposée grâce à l'organisation de formes nouvelles de sociabilité et de loisirs, comme les courses et les meetings qui deviennent des événements médiatiques considérables et des occasions de rassurer l'opinion sur la sécurité du nouveau moyen de transport. Dès 1898, le Jardin des Tuileries reçoit à l'initiative de l'Automobile Club de France la première exposition internationale automobile. Les grandes marques de l'époque comme Peugeot, Panhard et Levasseur ou encore Daimler y participe et cette opération remporte un vif succès puisque 140 000 visiteurs affluent. Plus généralement, c'est toute une nouvelle discipline et une intériorisation de normes qui se mettent en place. Le journaliste spécialiste de l'automobile Baudry de Saunier l'explicite clairement dans les années 1920. Il est indispensable que le piéton connaisse désormais une discipline. Ainsi, le flâneur d'autrefois va faire son apprentissage de piéton conscient en une capitale moderne. Un siècle plus tard, nous avons tous fait notre apprentissage, nous sommes désormais domestiqués, soumis aux ordres et aux contraintes de la civilisation de l'automobile qui continue de s'imposer en nous vendant toujours l'illusion de la liberté et de la toute-puissance. Eh oui, domestiqués, nous les piétons, cédons le passage aux bagnoles même quand nous sommes prioritaires au sens du code de la route, par exemple sur un passage piéton. Alors, l'aventure automobile, elle naît de la propagande et notamment de la publicité. Eh bien, sachez qu'une association résistance à l'agression publicitaire a commis en 2024 un rapport intitulé « La publicité automobile à l'assaut de notre imaginaire ». Comment ? Pourquoi ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois.
Thank you.